Alphonse Daudet, Le Petit Chose, première partie. Chapitre 11, Mon bon ami, le maître d'armes. Ce jour-là, le 18 février, comme il était tombé beaucoup de neige pendant la nuit, les enfants n'avaient pas pu jouer dans les cours. Aussitôt l'étude du matin finie, on les avait casernés tous pêle-mêle dans la salle pour y prendre leur récréation à l'abri du mauvais temps, en attendant l'heure des classes. C'était moi qui les surveillais. Ce qu'on appelait la salle était l'ancien gymnase du collège de la Marine. Imaginez quatre grands murs nus, avec de petites fenêtres grillagées, ça et là des crampons à moitié arrachés, la trace encore visible des échelles, et, se balançant à la maîtresse poutre du plafond, un énorme anneau en fer au bout d'une corde. Les enfants avaient l'air de s'amuser beaucoup en regardant la neige qui remplissait les rues et les hommes armés de pelles qui l'emportaient dans les tombereaux. Mais tout ce tapage, je ne l'entendais pas. Seul, dans un coin, les larmes aux yeux, je lisais une lettre et les enfants auraient à cet instant démoli le gymnase de fond en comble que je ne m'en fusse pas aperçu. C'était une lettre de Jacques que je venais de recevoir. Elle portait le timbre de Paris. Mon Dieu, oui, de Paris ! Et voici ce qu'elle disait. « Cher Daniel, ma lettre va bien te surprendre. Tu ne te doutais pas, hein, que je fusse à Paris depuis 15 jours. J'ai quitté Lyon sans rien dire à personne, un coup de tête. Que veux-tu ? Je m'ennuyais trop dans cette horrible ville, surtout depuis ton départ. Je suis arrivé ici avec 30 francs et 5 ou 6 lettres de Monsieur le curé de Saint-Nizier. Heureusement, la Providence m'a protégé tout de suite et m'a fait rencontrer un vieux marquis chez lequel je suis entré comme secrétaire. Nous mettons en ordre ses mémoires. Je n'ai qu'à écrire sous sa dictée et je gagne à cela 100 francs par mois. Ce n'est pas brillant, comme tu vois, mais tout compte fait, j'espère pouvoir envoyer de temps en temps quelque chose à la maison sur mes économies. Ah, mon cher Daniel, la jolie ville que ce Paris! Ici, du moins, il ne fait pas toujours du brouillard. Il pleut bien quelquefois, mais c'est une petite pluie gaie, mêlée de soleil, et comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Aussi, je suis tout changé, si tu savais. Je ne pleure plus du tout, c'est incroyable. J'en étais là de la lettre, quand tout à coup, sous les fenêtres, retentit le bruit sourd d'une voiture roulant dans la neige. La voiture s'arrêta devant la porte du collège, et j'entendis les enfants crier à tue-tête « Le sous-préfet ! Le sous-préfet !» Une visite de monsieur le sous-préfet présageait évidemment quelque chose d'extraordinaire. Il venait à peine au collège de Sarlande une ou deux fois chaque année, et c'était alors comme un événement. Mais pour le quart d'heure, ce qui m'intéressait avant tout, ce qui me tenait à cœur plus que le sous-préfet de Sarlande et plus que Sarlande tout entier, c'était la lettre de mon frère Jacques. Aussi, tandis que les élèves, mis en gaieté, se culbutaient devant les fenêtres pour voir monsieur le sous-préfet descendre de voiture, je retournai dans mon coin et je me remis à lire. « Tu sauras, mon bon Daniel, que notre père est en Bretagne, où il fait le commerce du cidre pour le compte d'une compagnie. En apprenant que j'étais le secrétaire du marquis, il a voulu que je place quelques tonneaux de cidre chez lui. Par malheur, le marquis ne boit que du vin, et du vin d'Espagne encore. J'ai écrit cela au père. Sais-tu ce qu'il m'a répondu ? Jacques, tu es un âne, comme toujours. » Mais ça m'est égal, mon cher Daniel. Je crois qu'au fond, il m'aime beaucoup. Quant à maman, tu sais qu'elle est seule maintenant. Tu devrais bien lui écrire. Elle se plaint de ton silence. J'avais oublié de te dire une chose qui certainement te fera le plus grand plaisir. J'ai ma chambre au quartier latin. Au quartier latin, pense un peu. Une vraie chambre de poète, comme dans les romans, avec une petite fenêtre et des toits à perte de vue. Le lit n'est pas large, mais nous y tiendrons deux au besoin. Et puis, il y a dans un coin une table de travail où on serait très bien pour faire des verres. Je suis sûre que si tu voyais cela, tu voudrais venir me trouver au plus vite. Moi aussi, je te voudrais près de moi. Et je ne te dis pas que quelques jours, je ne te ferai pas signe de venir. En attendant, aime-moi toujours bien et ne travaille pas trop dans ton collège de peur de tomber malade. Je t'embrasse. Ton frère, Jacques. Ce brave Jacques, quel mal délicieux il venait de me faire avec sa lettre. Je riais et je pleurais en même temps. Toute ma vie de ces derniers mois, le punch, le billard, le café Barbette me faisaient l'effet d'un mauvais rêve. Et je pensais, allons, c'est fini. Maintenant je vais travailler, je vais être courageux comme Jacques. À ce moment, la cloche sonna. Mes élèves se mirent en rang. Ils causaient beaucoup du sous-préfet et se montraient, en passant, sa voiture stationnant devant la porte. Je l'ai remise entre les mains des professeurs. Puis, une fois débarrassé d'eux, je m'élançai en courant dans l'escalier. Il me tardait tant d'être seul dans ma chambre, avec la lettre de mon frère Jacques. « Monsieur Daniel, on vous attend chez le principal !»« Chez le principal ? Que pouvait avoir à me dire le principal ?» Le portier me regardait avec un drôle d'air. Tout à coup, l'idée des sous-préfets me revint. « Est-ce que monsieur le sous-préfet est là-haut » demandai-je. Et le cœur palpitant d'espoir, je me mis à gravir les degrés de l'escalier 4 à 4. Il y a des jours où l'on est comme fou. En apprenant que le sous-préfet m'attendait, savez-vous ce que j'imaginais ? Je m'imaginais qu'il avait remarqué ma bonne mine à la distribution et qu'il venait au collège tout exprès pour m'offrir d'être son secrétaire. Cela me paraissait la chose la plus naturelle du monde. La lettre de Jacques, avec ses histoires de vieux marquis, m'avait troublé la cervelle, à coup sûr. Quoi qu'il en soit, à mesure que je montais l'escalier, ma certitude devenait plus grande. Secrétaire du sous-préfet, je ne me sentais pas de joie. En tournant le corridor, je rencontrai Roger. Il était très pâle. Il me regarda comme s'il voulait me parler. Mais je ne m'arrêtai pas. Le sous-préfet n'avait pas le temps d'attendre. Quand j'arrivai devant le cabinet du principal, le cœur me battait bien fort, je vous jure. Secrétaire de monsieur le sous-préfet. Il fallut m'arrêter un instant pour reprendre haleine. Je rajustai ma cravate. Je donnai avec mes doigts un petit tour à mes cheveux et je tournai le bouton de la porte doucement. Si j'avais su ce qui m'attendait. Monsieur le sous-préfet était debout, appuyé négligemment au marbre de la cheminée et souriant dans ses favoris blonds. Monsieur le principal, en robe de chambre, se tenait près de lui, humblement, son bonnet de velours à la main, et Monsieur Viot, appelé en hâte, se dissimulait dans un coin. Dès que j'entrai, le sous-préfet prit la parole. « C'est donc monsieur, dit-il en me désignant, qui s'amuse à séduire nos femmes de chambre ?» Il avait prononcé cette phrase d'une voix claire, ironique et sans cesser de sourire. Je crus d'abord qu'il voulait plaisanter, et je ne répondis rien. Mais le sous-préfet ne plaisantait pas. Après un moment de silence, il reprit en souriant toujours. « N'est-ce pas à monsieur Daniel Essette que j'ai l'honneur de parler ?»« À monsieur Daniel Essette qui a séduit la femme de chambre de ma femme ?» Je ne savais de quoi il s'agissait. Mais en entendant ce mot de femme de chambre, qu'on me jetait ainsi à la figure pour la seconde fois, je me sentis rouge de honte. Et ce fut avec une véritable indignation que je m'écriai « Une femme de chambre, moi ? Je n'ai jamais séduit de femme de chambre !» À cette réponse, Je vis un éclair de mépris jaillir des lunettes du principal, et j'entendis les clés murmurer dans leur coin « Quelle effronterie !» Le sous-préfet, lui, ne cessait pas de sourire. Il prit sur la tablette de la cheminée un petit paquet de papier que je n'avais pas aperçu d'abord, puis se tournant vers moi et les agitant négligemment. « Monsieur, dit-il, voici des témoignages fort graves qui vous accusent. Ce sont des lettres qu'on a surprises chez la demoiselle en question. Elles ne sont pas signées, il est vrai, et d'un autre côté, la femme de chambre n'a voulu nommer personne. Seulement, dans ses lettres, il est souvent parlé du collège, et malheureusement pour vous, M. Viot a reconnu votre écriture et votre style. » Ici, les clés grincèrent férocement, et le sous-préfet, souriant toujours, ajouta « Tout le monde n'est pas poète au collège de Sarlande. » À ces mots, une idée fugitive me traversa l'esprit. Je voulus voir de près ces papiers. Je m'élançai. Le principal eut peur d'un scandale et fit un geste pour me retenir. Mais le sous-préfet me tendit le dossier tranquillement. « Regardez !» me dit-il. « Miséricorde ! Ma correspondance avec Cécilia. Elles y étaient toutes, toutes. Depuis celle qui commençait, « Oh, Cécilia, quelquefois, sur un rocher sauvage !» Jusqu'au cantique d'action de grâce, « Ange qui a consenti à passer une nuit sur la terre !» Et dire que toutes ces belles fleurs de rhétorique amoureuse, je les avais effeuillées sous les pas d'une femme de chambre. Dire que cette personne, d'une situation tellement élevée, tellement, etc., décrottait tous les matins les socs de la sous-préfète. On peut se figurer ma rage, ma confusion. « Eh bien, qu'en dites-vous, seigneur Don Juan ?» ricana le sous-préfet, après un moment de silence. « Est-ce que ces lettres sont de vous, oui ou non ?» Au lieu de répondre, je baissai la tête. Un mot pouvait me disculper. Mais ce mot, je ne le prononçai pas. J'étais prêt à tout souffrir plutôt que de dénoncer Roger. Car... remarquez bien qu'au milieu de cette catastrophe, le petit chose n'avait pas un instant soupçonné la loyauté de son ami. En reconnaissant les lettres, il s'était dit tout de suite « Roger aura eu la paresse de les recopier. Il a mieux aimé faire une partie de billard de plus et envoyer les miennes. » Quelle innocence, petit chose! Quand le sous-préfet vit que je ne voulais pas répondre, il remit les lettres dans sa poche et, se tournant vers le principal et son acolyte, « Maintenant, messieurs, vous savez ce qui vous reste à faire. » Sur quoi, les clés de M. Viot frétillèrent d'un air lugubre et le principal répondit en s'inclinant jusqu'à terre que M. Essette avait mérité d'être chassé sur l'heure, mais qu'afin d'éviter tout scandale, on le garderait au collège encore 8 jours. Juste le temps de faire venir un nouveau maître. À ce terrible mot, chassé, tout mon courage m'abandonna. Je saluai sans rien dire et je sortis précipitamment. À peine dehors, mes larmes éclatèrent. Je courus d'un trait jusqu'à ma chambre en étouffant mes sanglots dans mon mouchoir. Roger m'attendait. Il avait l'air fort inquiet et se promenait à grands pas de long en large. En me voyant entrer, il vint vers moi. « Monsieur Daniel !» me dit-il. Et son œil m'interrogeait. Je me laissai tomber sur une chaise sans répondre. « Des pleurs, des enfantillages !» reprit le maître d'armes d'un ton brutal. « Tout cela ne prouve rien. Voyons, vite !» « Que s'est-il passé ?» Alors, je lui racontai dans tous les détails toute l'horrible scène du cabinet. À mesure que je parlais, je voyais la physionomie de Roger s'éclaircir. Il ne me regardait plus du même air rogue, et à la fin, quand il eut appris comment, pour ne pas le trahir, je m'étais laissé chasser du collège, il me tendit ses deux mains ouvertes et me dit simplement « Daniel, vous êtes un noble cœur. » À ce moment, nous entendîmes dans la rue le roulement d'une voiture. C'était le sous-préfet qui s'en allait. « Vous êtes un noble cœur !» reprit mon bon ami le maître d'armes en me serrant les poignets à les briser. « Vous êtes un noble cœur, je ne vous dis que ça. Mais vous devez comprendre que je ne permettrai à personne de se sacrifier pour moi. » Tout en parlant, il s'était rapproché de la porte. « Ne pleurez pas, monsieur Daniel. Je vais aller trouver le principal et je vous jure bien que ce n'est pas vous qui serez chassé. » Il fit encore un pas pour sortir, puis revenant vers moi, comme s'il oubliait quelque chose. « Seulement, me dit-il à voix basse, écoutez bien ceci avant que je m'en aille. Le grand Roger n'est pas seul au monde. Il a quelque part une mère infirme dans un coin. Une mère, pauvre sainte femme, promettez-moi de lui écrire quand tout sera fini. » C'était dit gravement, tranquillement, d'un ton qui m'effraya. « Mais que voulez-vous faire ? » m'écriai-je. Roger ne répondit rien. Seulement, il entr'ouvrit sa veste et me laissa voir dans sa poche la crosse luisante d'un pistolet. Je m'élançai vers lui, tout ému. « Vous tuez, malheureux ! Vous voulez vous tuer ?» Et lui, très froidement. « Mon cher, quand j'étais au service, je m'étais promis que si jamais... par un coup de ma mauvaise tête, je venais à me faire dégrader, je ne survivrais pas à mon déshonneur. Le moment est venu de me tenir parole. Dans 5 minutes, je serai chassé du collège, c'est-à-dire dégradé. 1 heure après, bonsoir. J'avale ma dernière prune. » En entendant cela, je me plantai résolument devant la porte. « Eh bien non, Roger, vous ne sortirez pas. J'aime mieux perdre ma place que d'être cause de votre mort. « Laissez-moi faire mon devoir !» me dit-il d'un air farouche. Et malgré mes efforts, il parvint à entr'ouvrir la porte. Alors j'eus l'idée de lui parler de sa mère, de cette pauvre mère qu'il avait quelque part dans un coin. Je lui prouvai qu'il devait vivre pour elle, que moi j'étais à même de trouver facilement une autre place, que d'ailleurs, dans tous les cas, nous avions encore 8 jours devant nous et que c'était bien le moins qu'on attendît jusqu'au dernier moment avant de prendre un parti si terrible. Cette dernière réflexion parut le toucher. Il consentit à retarder de quelques heures sa visite au principal et ce qui devait s'en suivre. Sur ces entrefaites, la cloche sonna. Nous nous embrassâmes et je descendis à l'école. Ce que c'est que de nous. J'étais entré dans ma chambre désespéré, j'en sortis presque joyeux. Le petit chose était si fier d'avoir sauvé la vie à son bon ami le maître d'armes. Pourtant, il faut bien le dire, une fois assis dans ma chaire et le premier mouvement de l'enthousiasme passé, je me mis à faire des réflexions. Roger consentait à vivre, c'était bien. Mais moi-même, qu'allais-je devenir après que mon beau dévouement m'aurait mis à la porte du collège? La situation n'était pas gaie. Je voyais déjà le foyer singulièrement compromis, ma mère en larmes et M. Essette bien en colère. Heureusement, je pensais à Jacques. Quelle bonne idée sa lettre avait eue d'arriver précisément le matin. C'était bien simple après tout. Ne m'écrivait-il pas que dans son lit, il y avait place pour 2. D'ailleurs, à Paris, on trouve toujours de quoi vivre. Ici, une pensée horrible m'arrêta. Pour partir, il fallait de l'argent. Celui du chemin de fer d'abord, puis 58 francs que je devais au portier, puis 10 francs qu'un grand m'avait prêtés, puis des sommes énormes inscrites à mon nom sur le livre de compte du café Barbette. Le moyen de se procurer tout cet argent? Bah, me dis-je en y songeant. Je me trouve bien naïf de m'inquiéter pour si peu. Roger n'est-il pas là? Roger est riche, il donne des leçons en ville, et il sera trop heureux de me procurer quelques 100 francs à moi qui viens de lui sauver la vie. Mes affaires ainsi réglées, j'oubliais toutes les catastrophes de la journée pour ne songer qu'à mon grand voyage de Paris. J'étais très joyeux, je ne tenais plus en place, et M. Viot, qui descendit à l'étude pour savourer mon désespoir, eut l'air fort déçu en voyant ma mine réjouie. À dîner, je mangeai vite et bien. Dans la cour, je pardonnai les arrêts des élèves. Enfin, l'heure de la classe sonna. Le plus pressant était de voir Roger. D'un bond, je fus à sa chambre, personne à sa chambre. « Bon, me dis-je en moi-même, il sera allé faire un tour au café Barbette. » Et cela ne m'étonna pas dans des circonstances aussi dramatiques. Au café Barbette, personne encore. « Roger, me dit-on, est allé à la prairie avec les sous-officiers. » Que diable pouvait-il faire là-bas par un temps pareil? Je commençais à être fort inquiet. Aussi, sans vouloir accepter une partie de billard qu'on m'offrait, je relevai le bas de mon pantalon et je m'élançai dans la neige du côté de la prairie à la recherche de mon bon ami, le maître d'armes.